Au nom de Jésus. Amen.
Voilà. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là avec vous et d'explorer un peu la parole de Dieu ce matin avec vous. Donc c'est un long passage, hein. Ça fait à peu près 2 chapitres, donc je ne vais pas avoir le temps de vous lire, mais je vais vous résumer d'abord un petit peu ce qui s'y passe. Et pour comprendre ce qui s'y passe, il faut juste qu'on revienne à un passage d'Acte 19, un petit peu avant, où Paul prend une certaine décision. Paul prit la décision dans l'esprit de se rendre à Jérusalem, en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Il déclarait « Quand j'aurai été là-bas, il faudra encore que je me rende à Rome. » Deux villes, Jérusalem et Rome. Deux mondes, le peuple juif et les nations. Deux groupes auxquels l'Évangile est proclamé. Deux zones aussi de pouvoir politico-spirituel que le royaume de Dieu vient pénétrer et confronter. Alors malgré le fait que l'Esprit-Saint ait averti Paul qu'il allait être arrêté et souffrir, Paul poursuit son projet d'aller d'abord à Jérusalem et ensuite à Rome. Je ne pense pas qu'il avait imaginé qu'il serait transporté à Rome de la manière qu'il va découvrir par la suite. Mais en tout cas, il sait qu'il fait face à de la persécution. Alors en arrivant à Jérusalem, les choses se compliquent assez rapidement. Les juifs convertis, qui sont donc des chrétiens, mais qui gardent leurs coutumes juives, comme on appellerait juifs messianiques aujourd'hui, ont commencé à croire à la rumeur que Paul demande aux juifs d'abandonner toutes leurs coutumes et leur culture. Jacques et les anciens demandent alors à Paul de faire un acte pour démentir ces rumeurs. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit accompagner 4 chrétiens juifs au temple, qui vont eux-mêmes faire un vœu, et lui-même se purifier publiquement. Alors il accepte, et ceci le mène au centre névralgique de la foi juive, le temple. Peu de temps après, les problèmes commencent. Les juifs d'Asie l'accusent. La foule se met en liesse et est sur le point de le tuer. C'est alors qu'un autre acteur entre en jeu, les Romains. Dans le passé, vous vous souvenez peut-être que Paul a déjà été pas mal aidé par le fait qu'il est citoyen romain. Et des officiels romains l'ont parfois sorti d'une mauvaise passe. Maintenant, c'est le tribun de Jérusalem qui va venir le récupérer, empêcher les Juifs de le tuer, et de cette manière le protéger. Alors Paul va pouvoir témoigner devant le peuple et devant le Sanhédrin. En 23:6, il dit la chose suivante au peuple juif. « C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » Puis notre passage se termine par une révélation de Jésus qui parle directement à Paul. Il lui dit « Courage, de même que tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, de même il faut que tu portes ce témoignage à Rome. » On revient toujours à ces deux villes, Jérusalem et Rome, où Paul vient témoigner de l'espérance qui l'anime. Alors, Jérusalem et Rome, ce sont les centres névralgiques de 2 sphères auxquelles l'espérance de la résurrection vient s'adresser, les Juifs et les nations. Le royaume de Dieu a pénétré ces 2 sphères et il porte du fruit. Il y a plein de... Au début de notre passage, on voit que Paul témoigne de tous les païens qui se sont convertis et puis Jacques et les anciens témoignent de tous les Juifs qui se sont convertis. Mais le royaume de Dieu vient aussi confronter les puissances des ténèbres qui se cachent derrière les systèmes politico-religieux de Jérusalem et de Rome, qui rejettent l'évangile du Messie mort et ressuscité. Alors, ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il amène Paul droit au centre de ces systèmes politico-religieux qui s'opposent à l'évangile, sachant qu'il va au final y laisser sa vie, de même que Christ. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement, dit Paul. Alors, quelle est cette espérance dont témoigne Paul? Et en quoi est-ce que Jérusalem et Rome s'opposent à cette espérance? L'espérance chrétienne se réfère à une troisième ville. La Bible l'appelle la Nouvelle Jérusalem, ou la Jérusalem céleste, ou la Jérusalem d'en haut. Cette Jérusalem céleste qui descend des nouveaux cieux sur la nouvelle terre, c'est le centre de la nouvelle création, où l'humanité rachetée va vivre dans la présence de Dieu. Alors, on n'est pas encore dans cette Jérusalem céleste, mais l'auteur des Hébreux nous dit qu'on s'en est approché. Dans Hébreux 12, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Alors, il y a deux villes qui veulent maintenir leur position, qui n'ont pas du tout envie que cette Jérusalem céleste descende. On va en parler après. J'aimerais maintenant explorer un tout petit peu plus quelle est cette espérance associée à la Jérusalem céleste. L'espérance chrétienne a cela de spécial qu'elle est à la fois réalisée et future. On va voir que l'espérance de Jérusalem, elle est complètement future, elle n'a rien de réalisé. L'espérance de Rome, elle est complètement réalisée dans l'humain et les puissances qui cherchent à les manipuler. En effet, un premier homme est entré dans l'état de résurrection, qui est notre espérance. C'est Jésus. Et donc, dans ce sens-là, notre espérance, elle a déjà commencé à se réaliser. Mais plus encore, au fait, la Bible ne dit pas seulement qu'il y a un homme qui est entré dans cet état qui sera le nôtre dans le futur, mais qu'on commence à l'expérimenter aujourd'hui déjà. On est déjà réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas seulement pour le futur. Paul nous dit dans les Corinthiens que la nouvelle création a déjà commencé en nous. Nous attendons, mais nous avons déjà reçu ce qu'on appelle les arts, ou un acompte, une garantie, un sceau, qui non seulement nous garantit notre rédemption future, mais vient déjà progressivement l'actualiser dans le présent. C'est l'Esprit Saint, celui qui nous sanctifie, lui qui nous transforme à l'image de Jésus, lui qui nous communique l'amour du Père, et lui qui est la présence même du Père et du Fils en nous. Alors cette espérance est adressée à deux groupes, aux Juifs et aux païens, ou les nations. Si de nombreuses personnes dans ces deux groupes se convertissent, chacun de ces groupes représente une forme différente d'opposition à cette espérance qui est inaugurée en Jésus et par l'Esprit Saint. Derrière ces deux formes d'opposition de l'Évangile se trouvent des puissances et des autorités du monde des ténèbres qui s'opposent à l'avancée du royaume de Dieu, qui veulent garder leur pouvoir. Et ces puissances se concentrent leur activité dans les deux villes à l'époque de Paul, de Jérusalem et de Rome. Alors nous allons voir maintenant comment ces deux villes se sont opposées à l'espérance chrétienne. Puis on va se pencher sur comment est-ce que cette opposition existe toujours aujourd'hui dans notre société et également, il faut bien l'avouer, dans notre propre cœur. Commençons par la première ville, la Jérusalem terrestre. La Jérusalem terrestre qui a tué les prophètes et son Messie représente une forme de refus de l'Évangile. Dans ce monde-là, il y a une espérance. Il y a l'espérance de la venue du Messie. Mais lorsqu'il vient, il ne le voit pas. Dans ce monde-là, il y a l'espérance de la résurrection. Mais lorsque Jésus ressuscite, il ne le croit pas. C'est une espérance qui est purement orientée vers le futur, qui ne voit pas l'action de Dieu dans le présent, parce qu'elle est focalisée sur ses propres efforts pour construire elle-même ce futur et le mériter. La Jérusalem terrestre a rejeté son Messie. Et son temple n'était plus qu'un édifice vide au service d'un pouvoir corrompu. Jésus s'est lamenté sur Jérusalem. Il dit « Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais vous n'avez pas voulu. » Le résultat sera la destruction envoyée par Dieu en l'an 70 après Jésus-Christ. Je lis dans Luc 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez alors que l'heure de sa dévastation est arrivée, car ce sont des jours de vengeance où doit s'accomplir ce qui est écrit. Ils tomberont au fil de l'épée, ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que soit accompli le temps des nations. Et ce temps des nations, on y est toujours aujourd'hui. Alors, qui va exécuter ce plan? C'est Rome, la nouvelle Babylone, sous les ordres du général Titus. Pour les nations, à l'époque de Paul, c'est à Rome que se concentre ce mélange de pouvoir humain et de puissance des autorités des ténèbres qui s'opposent au règne de Dieu. Il faut peut-être qu'on se rappelle un petit peu la situation. Rome avait une mainmise totale sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Cette mainmise s'appelait la Pax Romana, la paix romaine. Comment est-ce que cette paix est arrivée? Cette Pax Romana, après tout le chaos de l'assassinat de César et ce qui en a suivi, a été amenée par un homme, l'empereur Auguste, qui était l'empereur pendant la naissance de Jésus. Voici comment une inscription datant de l'an 9 avant Jésus-Christ décrit la naissance de l'empereur Auguste. Je lis des extraits. « On peut légitimement considérer ce jour, donc la naissance d'Auguste, comme le moment où le début de l'existence et de la vie est arrivé. Puisque la Providence a amené l'ordre le plus parfait en nous donnant Auguste, l'envoyant comme un sauveur. Et puisque lui, César, par son apparition ou son épiphanie, a surpassé toutes nos attentes à cause de lui, la date de naissance de Dieu fut le début des bonnes nouvelles pour le monde. » Ça vous donne peut-être une petite sensation de la puissance de la mainmise de Rome sur le monde à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui a été. Cette inscription est trouvée dans la province d'Asie, hein, là où il y a Éphèse. Alors, Rome, elle n'a plus d'attente pour une bonne nouvelle, elle l'a déjà reçue, sa bonne nouvelle. Son sauveur, c'est Auguste et ses successeurs. La paix qu'elle cherchait, c'est la Pax Romana, qui est maintenue par un système militaire et de communication très bien organisé. D'une part, hein, on maintient l'ordre, et d'autre part, par le panem et circenses, le pain et les jeux. Ça calme les foules, hein, le pain et les jeux. C'est cette Pax Romana qui, cependant, va être le canal que Paul va utiliser pour arriver au cœur même de cette puissance, Rome. Rome est complètement aveugle sur ce qui est en train de se passer. L'empereur à ce moment est le tristement célèbre Néron. Quelques années plus tard, la persécution démarra et Paul en mourra. Mais l'évangile a eu le temps de pénétrer le cœur de Rome et de l'Empire romain et va se propager alors dans toutes les nations. Quant à Rome, qu'est-ce qui va se passer avec Rome? Elle va finir par tomber sous les Visigoths en 410. Alors ça, c'est une première réalisation de la prophétie de l'Apocalypse qui parle de la chute de Babylone. Et bien sûr que les puissances des ténèbres continuent leur emprise sur les nations aujourd'hui. Et nous devrons attendre jusqu'à la victoire finale pour que Babylone tombe complètement lorsque Christ revient. Alors, ces deux formes de résistance à l'Évangile qu'on a vues, qui sont représentées par la Jérusalem terrestre et par Rome, la nouvelle Babylone, existent toujours aujourd'hui dans notre société et pénètrent également notre cœur. Commençons par la société dans laquelle nous vivons. L'agnosticisme et l'humanisme de la modernité correspondent, à mon avis, à la Jérusalem terrestre. La modernité espère un monde meilleur, mais refuse de croire que Dieu existe, que Dieu agit dans le monde, et donc veut construire ce monde meilleur par ses propres forces. Maintenant, cette Jérusalem de la modernité, vous savez peut-être qu'elle est en état de siège. Elle est assiégée par la Rome de la postmodernité. La postmodernité, contrairement à la modernité, qui a une espérance qu'elle essaye d'atteindre par ses propres efforts d'une société basée sur la raison, la postmodernité, elle, vient avec une myriade d'évangiles. Chacun son espérance, réalisée dans toutes sortes de pratiques, plus ou moins occultes. Et pourtant, tout cela prenant place à l'intérieur d'un système de pensée tyrannique qui n'accepte aucune affirmation de vérité autre que la sienne. Alors, comme Paul a utilisé la Pax Romana, je pense que Dieu nous invite aujourd'hui à utiliser la Pax Postmoderna pour faire avancer son royaume. Qu'en est-il maintenant de notre cœur ? Comment est-ce que ça nous impacte et ça nous freine dans notre vie chrétienne ? Pierre nous dit que nous avons une espérance vivante. J'aimerais juste nous lire ce verset de 1 Pierre au chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Alors, cette espérance vivante, dont on goûte déjà les prémices par l'Esprit Saint, c'est de vivre dans la Jérusalem céleste, dans la présence de Dieu. Souvent, pourtant, nous vivons dans la Jérusalem terrestre, de la loi et de l'agnosticisme, ou alors dans la Rome, des sécurités et des plaisirs humains. En quoi nous confions-nous au jour le jour? Et là, j'entends pas seulement pour la vie après la mort, pour les problèmes qu'on a ici concrètement. Quelle est l'espérance qui nous anime? Quelle est l'espérance qui nous fait aller de l'avant, qui nous garde en paix lorsque nous sommes dans des moments sombres? Quel est le socle de notre vie? L'agnosticisme, l'athéisme de notre société pénètre notre cœur. Comment? On reste croyant, bien sûr. Mais nous en venons à vivre une sorte de foi axiomatique, une croyance théorique qui ne change pas grand-chose à notre quotidien de tous les jours, car nous nous fermons à la présence de Dieu en nous. Nous venons alors à vivre une foi qui consiste en des valeurs et des standards que nous cherchons laborieusement à atteindre, ce sont des jougs lourds et pénibles. Oui, elle est lourde, la Jérusalem terrestre, et c'est une ruine qui ne sera plus jamais reconstruite. Ce chemin-là n'est pas porteur de vie. Si nous faisons confiance à Dieu et devenons attentifs, donc à l'aspect de confiance d'abord, hein, pour lâcher nos propres efforts, et puis le fait de mériter son amour, on doit... C'est dur, hein, difficile de faire ça. Et pour moi, également, faire confiance à Dieu dans les choses difficiles, puis devenir attentif à sa présence en nous, à son action dans notre vie. Puis petit à petit, ça va nous faire réaliser à nouveau, mais l'espérance d'Israël, elle est accomplie en Jésus. C'est plus quelque chose qu'on attend. Gardons le regard fixé sur Jésus. Mettons-nous à son école. On a dit la loi, nos propres efforts, devoir créer finalement le bien par nous-mêmes, ben ça c'est un joug qui est lourd. Et Jésus il nous dit, ben moi le joug que je vous propose, il est doux et léger. Mettez-vous à mon école parce que je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus. Alors, il y a la Jérusalem terrestre de l'athéisme et de la loi. Bien sûr, à l'époque, les Juifs n'étaient pas athées, mais ils étaient athées par rapport à Jésus. Ils refusaient de voir qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, ça correspond à ce même état d'esprit. Alors ça, c'est un des problèmes contre lequel on doit lutter. L'autre problème, c'est la Rome des sécurités et des plaisirs humains qui nous sont offerts comme planche de salut et qui finalement nous contrôle. Alors, les plaisirs de la vie et les sécurités que nous offre notre société sont, je pense, des bénédictions de Dieu. Un ami suisse qui a vécu un certain temps en Amérique du Sud, dans un pays pas mal troublé, il m'a dit « La seule chose que j'ai jamais réussi à supporter, c'est l'insécurité. Que chaque fois que mes enfants sont dehors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. » La sécurité, c'est une belle chose. Le plaisir du manger et du boire. Hein, combien de fois Jésus a partagé des bons repas? Le plaisir de la sexualité, de la nature, de l'amitié, un repas en tête à tête, le sport, la couture, le cinéma, la musique, l'informatique pour ceux qui sont des geeks, les réseaux sociaux, le scrapbooking, la lecture, les voyages, même les jeux vidéo, tout ça, ce sont des bénédictions de Dieu. Et puis pour la sécurité, l'argent que nous avons, les assurances, le système social, les assurances de santé, tout ça, c'est des sécurités qui sont inspirées par les valeurs du royaume de Dieu. Mais la question, c'est qu'est-ce qui me tire en avant? Qu'est-ce qui me maintient debout dans la souffrance physique ou morale? Qu'est-ce qui me tient debout dans l'angoisse, dans le stress, face au doute, face à l'inconnu du futur, lorsque je manque de ressources? Qu'est-ce qui me donne une joie profonde? Quelle est l'espérance qui m'anime lorsque je me réveille le matin? Que j'ai toutes ces choses devant moi à faire, ces défis. Et puis quand je finis ma journée de travail, quelle est l'espérance qui m'anime quand je rentre chez moi le soir? Les éléments de la liste que je viens de mentionner sont des bénédictions de Dieu. Mais s'ils deviennent eux-mêmes la source de ma paix et de ma joie, alors je suis en train de succomber à Rome et au suquet d'années d'espérance qu'elle propose. Ces sécurités et ces plaisirs humains sont appelés à être vécus à l'intérieur de l'espérance que me donne Christ. ne sont pas une espérance en soi. Si on les prend comme une espérance, ça devient des espérances futiles, éphémères, qui sont au final des pièges. Goûtons que le Seigneur est bon. J'aime bien le côté gustatif, tactile de cette phrase. Goûtons que le Seigneur est bon. Goûtons à sa présence. Courons à sa suite comme des enfants qui courent après leurs parents sur un chemin de campagne. Passons du temps à l'écouter, à discuter avec lui. Remettons-lui nos vies et nos soucis de tous les jours. Regardons-le agir autour de nous et en nous. Jésus veut vivre avec vous chaque instant de votre vie. Votre vie est unie à la sienne, votre destinée est liée à la sienne. Christ est notre espérance. Il est le premier-né parmi une multitude de frères et de sœurs. Et il revient pour mettre fin définitivement au règne des puissances des ténèbres et instaurer le royaume de Dieu de manière complète. J'aimerais conclure en lisant un passage de 1 Jean au chapitre 3. Et je trouve intéressant dans ce passage de voir comment Jean articule le côté de notre espérance qui est déjà réalisée et l'aspect qui est futur dans l'attente. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Alors, j'aimerais maintenant vous proposer un moment d'appropriation personnelle de ce message. Vous proposant de méditer sur certaines questions. Je prierai pour nous tous après. Alors, y a-t-il des aspects de ma vie où je peux dire que je suis dans la Jérusalem terrestre ? C'est-à-dire que je vis une forme d'agnosticisme par rapport à l'action de Dieu dans le monde et dans ma vie. Et que, vu que je doute beaucoup de l'action de Dieu, je me repose beaucoup sur mes propres efforts. Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est y a-t-il des aspects de ma vie où je peux dire que je vis dans Rome ? Que ma sécurité et ma joie sont placées ailleurs qu'en Dieu ? Dans des choses humaines, à consommer, qui au final me consomment, me consument. Pensez à cela. Et si vous le voulez, sélectionnez un aspect de votre vie où vous aimeriez quitter peut-être la Jérusalem terrestre, ou un domaine de votre vie où vous aimeriez quitter la Rome Babylone. Je nous laisse un tout petit moment maintenant pour réfléchir à s'il y a un aspect de notre vie où nous aimerions faire ce pas. Maintenant que vous avez peut-être sélectionné un aspect de votre vie où vous voulez peut-être donc vous éloigner de la Jérusalem terrestre ou de la Rome Babylone, la repentance ou la conversion, enfin tout ce mouvement de changement auquel Dieu nous appelle, c'est toujours on s'éloigne de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Dieu ne nous laisse pas assoiffés et affamés. Voulez-vous faire un pas pour vous rapprocher de la Jérusalem céleste dans ce domaine de votre vie? Ça veut dire quoi? Voulez-vous faire plus confiance à Dieu? Lui ouvrir plus votre cœur? Vous ouvrir plus à sa présence en vous et dans votre vie, à son action en vous et autour de vous. Si vous voulez faire ce choix, je vous propose de vous associer à ma prière. Et je vais prier maintenant. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui voulons faire cette démarche maintenant, et peut-être pour certains ce sera une autre fois, que chacun se sente libre. Eh bien, ouais, nous voulons te demander pardon pour cette partie de notre vie où, c'est vrai, nous avons vécu selon les principes de la Jérusalem terrestre. Nous avons douté de ton action, ou même pas voulu voir ou chercher à voir ton action en nous et autour de nous, et où nous nous sommes basés sur nos propres efforts pour construire par nous-mêmes cette espérance que toi tu veux nous donner. Ouais, nous te demandons pardon pour cela. Et pour certains d'entre nous, nous voulons te demander pardon d'avoir vécu selon les principes de Rome, avec cette fausse espérance réalisée dans le présent par des plaisirs humains, par des sécurités humaines. Et lorsqu'on leur donne ta place, ces choses deviennent des puissances qui prennent le pouvoir sur notre vie. Te demandons pardon aussi pour cela. Et nous renonçons à ces choses comme socle de notre vie. Nous renonçons à nos propres efforts. Nous renonçons à ces sécurités humaines comme socle de notre vie, comme planche de salut. Nous dénonçons ces choses comme n'étant pas la vraie espérance. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, je prie, viens nous remplir maintenant de l'espérance de la résurrection, de voir Jésus face à face. Nous voulons te faire confiance, te voir à l'action dans la vie de chacun de nous et dans la vie de notre communauté. Nous proclamons que tu es là avec nous, que tu ne nous laisses pas seuls. Et Seigneur, au sein de cette espérance que tu nous donnes, tu nous demandes pas d'être inactifs. Tu as préparé des belles œuvres pour que nous entrions dans ces œuvres. Et tu ne nous demandes pas de vivre aucun plaisir. Tu te réjouis de ces plaisirs que tu nous donnes, toi, dans ta bonté. Nous voulons vivre cette activité et ces plaisirs que tu nous donnes au sein même de l'espérance. Et finalement, je veux dire à ces puissances des ténèbres qui veulent prendre le pouvoir sur nous que vous n'avez pas de droit sur nos vies. Nous vous avons dit que nous ne voulons plus de vos mirages. Vous partez maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, viens fermer ces portes que nous avons peut-être ouvertes dans notre vie. Nous te louons pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.